De retour à On a des choses à dire, présenté par Lucien Day, le Parizeau cabinet d'assurance, Meubles André Beaulieu, le comité des usagers Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu à nos micros. C'est agréable de pouvoir le retrouver. Je sais qu'il a voyagé pendant cette période-là un petit peu. Et on l'accueille avec grand plaisir, Hubert Vallée, notre historien préféré. Bonjour, Hubert.
Bonjour, heureux d'être de retour parmi vous.
Hubert, on fait appel encore une fois à tes lumières et à ta grande connaissance de l'histoire parce que le 9 novembre, donc ce samedi, ce sera un anniversaire important, 30 ans déjà que le mur de Berlin s'est effondré. Et outre le fait que c'est un mur que, d'ailleurs, on va parler de Trump après, parce qu'il faut absolument qu'on s'astine sur Trump. Lui qui veut bâtir un mur le long de la frontière américano-mexicaine, sachez que le mur de Berlin a été bâti en une seule nuit,
La partie principale.
Ouais.
Parce que c'est un mur quand même de 164 kilomètres.
Ouais, on est loin des milliers
de
kilomètres.
On voit toujours la partie autour de la porte Brandebourg, mais on expliquera le contexte en Berlin.
Oui, ben c'est ça. Donc, la chute du mur de Berlin, c'est aussi en même temps, ça a une signification, une symbolique extraordinaire. Ça a changé complètement les relations des Allemands avec le reste du monde.
Oui, évidemment, c'est symbolique de la fin des années 80, en quelque sorte, la libéralisation. C'est un phénomène spectaculaire, mais c'est pas la cause, en quelque sorte, d'un phénomène extrêmement profond. Évidemment, ça a permis la réunification de l'Allemagne, la chute du Parti communiste et finalement le démantèlement de l'URSS. Donc, c'est un événement symptomatique parce que c'était filmé. Il faut rappeler le contexte de Berlin. Les gens me demandent pourquoi Berlin était séparé en deux.
C'est ça.
Ça remonte aux accords de Yalta. En février 45, trois mois avant la chute de l'Allemagne, les présidents américains, premiers ministres anglais, Staline se rencontrent. On décide que l'Allemagne aurait quatre zones d'occupation, puisque le général de Gaulle avait imposé une zone française. Une zone américaine, anglaise, française, qui est devenue l'Allemagne de l'Ouest. Et les Soviétiques, là où s'arrêtait leur conquête, c'était la DDR, l'Allemagne de l'Est. Donc, quatre Allemagnes, une de l'Ouest et une communiste, l'Allemagne communiste. Et Berlin, si vous regardez une carte, se trouve complètement au nord-est de l'Allemagne. Donc, Roosevelt et Churchill ont dit « pas question que l'ancienne capitale du Troisième Reich appartienne entièrement aux Soviétiques. On va faire une enclave à Berlin. Il va y avoir Berlin-Est communiste et les autres, il va y avoir une occupation française, anglaise, américaine qu'on va appeler Berlin-Ouest. » Donc, Berlin est une sorte de bulle au milieu d'un État communiste, Berlin-Ouest. D'un côté de la ville, c'était communiste et autour, c'était l'Allemagne de l'Est également communiste. Et pendant très longtemps, il était facile aux Allemands de l'Est de prendre le métro, quelques rues, ils se retrouvaient à Berlin-Ouest. Mm-hmm. Et là, évidemment, ils étaient dans une zone où ils pouvaient facilement regagner l'Allemagne de l'Ouest ou aller ailleurs. Et la population se vidait, l'Allemagne de l'Est, de tous ses cadres qualifiés et autres. D'où la construction du mur, évidemment, en 1961.
Parce que c'était plus payant pour les cadres d'être dans l'Ouest, finalement, que quand terrain
communiste. Il n'y avait aucune comparaison. J'y étais en 75. On pouvait aller à Berlin-Est par Potsdamstrasse, autrement dit Checkpoint Charlie, comme on l'appelait. C'était deux mondes. Entre Berlin luxuriant, des brasseries, les magasins opulents, les grosses voitures de luxe. À Berlin-Est, tout était lugubre, immense avenue, pas de voiture, les petites trabanes, magasins vides. Les gens mal habillés, il n'y avait aucune comparaison et le niveau de vie s'élargissait sans cesse en faveur des Allemands de l'Ouest.
Okay.
Donc, ces deux mondes, évidemment, l'Allemagne de l'Est n'était pas du tout au même diapason que l'Ouest, puis au niveau de la liberté, c'était affreux. Longtemps, il y a eu des gouvernements très autoritaires sous l'emprise de Moscou, en aucun, et le changement finalement profond, c'était l'avènement de Gorbatchev en 85, un jeune secrétaire de l'URSS, qui dit, moi, je vais réformer le communisme, il faut que ça soit attrayant, productif, et qu'il y ait une certaine liberté. Et jamais l'Union soviétique va intervenir par la force dans nos pays satellites. Alors qu'auparavant, quand il y avait eu une révolte à Berlin, à Budapest, les chars de l'armée rouge l'avaient écrasé dans des bains de sang épouvantables. Mmh. Et moindre dissidence était punie. Gorbatchev a dit, c'est le dialogue, plus question d'employer la force maintenant.
Ouais. Ça n'a pas été suivi parfaitement par ses successeurs, mais...
Oui. Après ça, évidemment, il y a eu des reculs, mais même en Allemagne de l'Est, où c'était un régime très autoritaire, efficace parce que vous vous souvenez, aux Jeux olympiques, les athlètes d'un petit pays, 17 millions d'habitants, l'Allemagne de l'Est, faisaient jeu égal avec les Soviétiques et les Américains.
Ouais.
Et il y avait des nageuses qui avaient des épaules pour en jouer dans la Ligue nationale de football. Remarquable, très organisé. Mm-hmm. Et il y avait Honecker qui était stalinien. Et là, est apparu un homme plus jovial quand il y a eu des manifestations de Leipzig et autres, M. Krinz, qui lui a tenté également d'être beaucoup plus souple et d'essayer finalement d'avoir, de faire des réformes populaires.
30 ans plus tard, quand on regarde ça, ces événements-là, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'on a gagné ou perdu?
Ah oui, c'est nettement positif. L'événement en question, en réalité, c'est le 10 novembre, c'est pas le 9. On attribue toujours le 9, je ne sais pas pourquoi. Ça a commencé très tard
c'est
le soir.
C'est un décalage horaire. Avec.
Ah, c'est vrai. peut-être. Ça a commencé à 21h30, très tard. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé à l'effet que les gens pourraient se rendre à Berlin-Ouest avec une simple pièce d'identité. Les gens n'y croyaient pas.
Ils sont allés voir.
Un couple qui s'est présenté, il est passé très facilement.
Okay.
La rumeur a circulé à Berlin-Est, malgré qu'il était 10 heures le soir, une foule immense s'est engouffrée dans la brèche. C'était la rencontre avec les Berlinois d'Ouest. Une nuit de fête extraordinaire. C'est ce qu'on voit qui se termine par les gens qui sont assis sur le mur de Berlin.
Ouais.
Moi, j'ai vu un documentaire. En fait, un documentaire. C'était un film qui a été réalisé avec comme trame de fond, si on veut, le Pink Floyd avec The Wall. Et puis, on voyait les événements qui étaient transposés là-dessus. C'était le party, là. Qu'est-ce qui a déclenché que les gens ont décidé de démanteler? Parce que c'est le monde, c'est les citoyens qui ont pris d'assaut le mur et qui ont commencé à le démanteler.
Le surnom du mur, c'était le mur de la honte. C'est pas pour rien. Encore une fois, une vingtaine de pieds de haut, on voit la partie de Berlin, mais autour qui séparait des campagnes de l'Allemagne de l'Est, ça faisait quand même 164 kilomètres. Tout le monde a porté ses pots de peinture, ses pioches et autres. Et les gardes étaient complètement dépassés, l'Allemagne de l'Est était complètement dépassée, et les Soviétiques avaient indiqué à Gorbatchev qu'ils n'interviendraient pas. Donc, il reste maintenant qu'un tout petit pan du mur, ouais, près de la porte Brandebourg, qu'on a conservé en souvenir. Les gens prenaient des... parce que c'est en béton, ça n'a pas grande valeur, mais les gens essayaient d'avoir un petit morceau du mur de Berlin qui était à portée de leur pioche, mais il ne reste plus rien.
C'était un peu le symbole de la fin de la guerre froide en même temps pour le commun des mortels, parce qu'on sait que ça s'est poursuivi quand même dans le secret des services, autant d'un côté comme de l'autre. Là. Il y a quand même eu de l'espionnage, du contre-espionnage, et toutes sortes de choses qui ont poursuivi. Mais la fameuse guerre froide, où c'était vraiment évident là, qu'il y avait une chasse au communisme, etc., on dirait que ça a apporté un baume, cet événement-là.
Oui, puis c'était très rapide. En moins d'un an, l'Allemagne s'est réunifiée. Ça a commencé par la fraternisation, les gens qui allaient d'un côté et de l'autre. Ensuite, un traité monétaire, parce que le mark de l'Allemagne de l'Est valait rien par rapport à celui de l'Ouest. On a harmonisé. Ensuite, un traité d'union. Finalement, dès le mois d'octobre, 11 mois après, l'Allemagne devient réunifiée. Un parti unique. Ensuite, dans toute l'URSS, il y a eu un effet. Les pays baltes réclament également une démocratie, la libération. Les Hongrois décident qu'ils ouvrent la frontière vis-à-vis l'Autriche. Et finalement, successivement, ensuite, il va y avoir un coup d'État contre Mikhail Gorbatchev, ouais, fait par les réactionnaires communistes, qu'on a appelés les conservateurs. Et là va émerger l'homme qui va permettre à l'URSS, avec Gorbatchev, d'atteindre la modernité, c'est Eltsine. Eltsine, qui était maire de Moscou, président de la République de Russie, une des 15 républiques, mais la principale. Et finalement, qui lui disait, le communisme, c'est fini. Et Gorbatchev ne se remettra jamais de la tentative de coup d'État. Ensuite, Eltsine va passer une loi rendant le Parti communiste illégal. Donc, du jour au lendemain, une société totalitaire communiste devient une société démocratique. C'est le printemps, ça réagit beaucoup.
Où on retrouve maintenant, mon Dieu, le matérialisme à dans tous ses excès, avec des oligarques qui ont des millions et des milliards à dépenser.
Oui, ça a tombé forcément dans l'autre sens. Puis ensuite, il y a eu, évidemment, tous les anciens satellites qui sont venus des pays,
oui,
finalement. Donc, c'était un événement extrêmement
magnifique. La Tchécoslovaquie a été parmi les premiers, je pense.
Oui, il y a eu... au début, il y a eu le coup de Prague. Le premier, les révoltes ont été en Allemagne de l'Est au début. Ensuite, Hongrie, où ça a été écrasé dans le sang. Ensuite, il y a eu... pas militaire, mais on a écrasé le printemps de Prague, où il y avait un début de mobilisation. Mais finalement, ça a commencé surtout par les pays baltes et la Hongrie. Les autres vont suivre.
Deux minutes. Est-ce que, parce que pour faire suite aux discussions qu'on a déjà eues, nous trois, sur la destitution de Trump, que tu voyais absolument impossible, est-ce que, au jour de ce qui se passe maintenant, là, avec des agissements qui sont carrément illégaux, qui sont vraiment mis au jour et avoués par Trump, puisqu'il a publié une transcription du fameux appel téléphonique que lui dit qu'il était parfait, qu'il était très beau, mais qui, en fait, demande à une nation étrangère de collaborer à sa campagne électorale pour nuire à son concurrent.
Oui.
Je pense que y a pas rien de plus évident que ça, là.
Non.
Ça va contre la Constitution. Donc, si c'est contre la Constitution, il y a lieu d'avoir un impeachment, là, une destitution.
C'est-à-dire que pour l'impeachment se fasse, il faut qu'il y ait motif. Le motif peut être évident. Ensuite, il faut qu'il y ait une représentation par la Chambre des représentants. Là, il n'y a pas de problème. Les démocrates sont majoritaires. Mais ça se décide au Sénat.
Ouais.
Sur 100 sénateurs, la majorité sont républicains. Il faudrait qu'ils aient 54 par rapport à 46 pour les démocrates. Il faudrait qu'il y ait 23 sénateurs républicains qui penchent du côté démocrate pour avoir les deux tiers. Et c'est pas gagné.
Mais tu penses pas que ces gens-là, ces 23-là, passeront pas à l'histoire, s'ils laissaient aller, là, s'ils soutenaient Trump jusqu'au bout, passeraient pas à l'histoire pour des gens qui ont soutenu quelqu'un qui agit dans l'illégalité?
Ils vont tenir un bas calcul politique, dans le sens qu'on est républicain. Si on combat un président de notre mouvance, le Parti républicain va se retrouver contre nous. Donc, on n'a aucune chance d'être sénateur à nouveau ou représentant, etc. Vaut mieux attendre. Il lui reste un an de mandat. Il faut quand même qu'il se représente à la Convention, même si pour un président, c'est une formalité. Ça risque de ne pas l'être, cette côté-ci. Donc, il risque de faire le calcul. Laissons-le aller encore un an. Puis après ça, à la prochaine Convention, on aura un autre candidat pour l'élection de 2024.
À suivre. Merci beaucoup, Hubert Vallée.
Ça me fait plaisir.
Merci.
On va essayer de moins se passer les visites là, pour la prochaine fois.
Ça sera avec grand plaisir.
Ça va aller vite avec Trump, on va sûrement se reparler. Ben, là-dessus, on s'arrête pour une pause. De l'autre côté, on parle avec Mme Plante de la maison Le Passeur de cette semaine très spéciale qui s'amène la semaine prochaine.
En tout cas, bonne journée. Les directeurs du bureau sont en